Radio Kaléidoscope 97 FM présente Au ras des rues, l'émission qui prend de la hauteur. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 16 mars. Vous écoutez Au ras des rues depuis les studios de Radio Kaléidoscope situés sur le village olympique de Grenoble. Donc je rappelle, Au ras des rues, c'est une émission qui parle des quartiers sud de Grenoble et on parle pas mal de Villeneuve et du village olympique. Donc autour de la table, on a l'équipe, j'allais dire l'équipe habituelle, mais aujourd'hui ça change un petit peu. On a Benjamin.
Bonjour.
On a Morgane.
Bonjour.
On n'a pas Marie-France aujourd'hui, mais on a Zora.
Oui, bonjour.
On a Pato à la technique et on a aussi un invité, donc Ossine. Ossine, donc tu es président de l'USVO. Et en quelques mots, l'USVO, c'est quoi ?
C'est le club de foot de quartier, unité sportive du village olympique.
Merci. Eh bien, vous pouvez toujours nous joindre donc, avec une adresse mail auraderues@lecrieur.net, AURASDES RUES. Je précise. On a une page Facebook, hein, n'hésitez pas à liker, auraderues-rks97fm.
Alors, est-ce qu'on a dépassé les 20 likes sur Facebook ?
Alors, j'ai regardé ce matin, on était à 18. Ça augmente toutes les semaines.
Bravo, c'est là qu'on applaudit.
Et bien sûr, il y a le podcast sur le site du Crieur.
Tout à fait.
www.lecrieur.net. Et ben, vas-y, Benjamin, avec l'agenda du Crieur.
Alors, à l'agenda du Crieur de la Villeneuve, aujourd'hui, mercredi 16 mars, à 16h, aura lieu la présentation du Bonhomme Carnaval au patio. Donc, le Bonhomme Carnaval, c'est la poupée qui a été construite par les enfants du centre de loisirs de la Cordée et qui sera donc présentée aux habitants. Et ce petit Bonhomme Carnaval, enfin, ce grand Bonhomme Carnaval, défilera dans les rues de la Villeneuve, dans la galerie Larlequin notamment, et dans le parc, lors du carnaval qui aura lieu le 25 mars. C'est un vendredi, ça sera à partir de 16h30. Le rendez-vous est à la Place Rouge, c'est derrière le collège Lucie Aumrac. Voilà, donc pour la présentation du Bonhomme Carnaval, c'est aujourd'hui à partir de 16h au patio 97, galerie de Larlequin. Dans le reste de l'agenda, lundi 21 mars à 20h, à la salle polyvalente des Baladins, donc c'est au 85 Galerie des Baladins, Ciné Villeneuve projette le film The Lunchbox. Le Lunchbox, ça peut être traduit par gamelle, c'est le petit contenant dans lequel on met le repas du midi. Donc The Lunchbox, c'est un film qui date de 2013, hein, une coproduction Inde, France et Allemagne. Ça raconte voilà l'histoire d'un échange de boîtes comme ça de le midi entre deux. Tu l'as vu, Zora ?
Ouais, je l'ai vu.
Moi aussi.
Tu l'as vu ? Ah bah tout le monde l'a vu. Alors vous pouvez peut-être mieux en parler que moi, parce que moi je ne l'ai pas vu.
Et ben donc l'histoire c'est que s'il y a une femme qui prépare le repas pour son mari et donc en fait ils mettent donc dans la lunchbox, ils la donnent à un livreur qui va la livrer chaude pour l'heure du repas. Donc c'est une entreprise incroyable à travers la ville de Delhi.
Non, c'est à Bombay, je crois.
C'est à Bombay.
Non, c'est à Bombay.
C'est
ouais.
À Bombay ouais. Et en fait, ben, les livreurs vont se tromper de destination et il y a une histoire entre deux personnes qui naît de cette erreur.
Oui, entre la femme donc et le réceptionniste de la lunchbox.
Voilà.
Voilà. Qui n'est pas son mari. Voilà.
Qui est pro. Voilà, donc si vous voulez connaître la fin de l'histoire, donc rendez-vous le lundi 21 mars à partir de 20h à la salle polyvalente des Baladins pour la projection de The Lunchbox.
Et pensez à manger avant parce que ça donne très faim.
Surtout à 20h en plus.
Oui. Ouais.
Et puis dans le reste de l'agenda, mardi 22 mars à partir de 18h, aura lieu des portes ouvertes à la Régie de quartier. Donc la Régie de quartier, c'est l'association qui est en charge de l'entretien des parties communes de la Villeneuve et qui fait de l'insertion en fait, qui emploie notamment des femmes, beaucoup de femmes, dans son association pour l'entretien de la Villeneuve. Donc la Régie de quartier fait une porte ouverte, c'est au local de la Régie de quartier, au 17 Galerie de l'Arlequin. Voilà, c'est tout pour l'agenda du Crieur.
Alors, est-ce que
Moi, je veux rappeler que donc à partir d'aujourd'hui ont lieu les premières rencontres de géopolitique critique sur le thème de l'Afrique et du post-colonial. Bon, alors ces rencontres commencent dès maintenant. Elles ont déjà lieu sur un regard critique sur le développement à l'IGA, qui se tient de midi à 14h. Mais bien évidemment, vous pouvez aussi venir au rendez-vous de 18 à 20h à Amal. Donc c'est au centre-ville, je ne sais pas l'adresse de l'association.
C'est à côté de la MJC des Allobroges, en face du musée de Grenoble.
Merci Benjamin. Et le thème ce soir, ce sera « Nouvelle forme de guerre, interventionnisme militaire français ». Avec donc des intervenants qui viennent de plusieurs universités, mais également Survie Isère, qui fait partie d'un réseau national qui ont créé le concept de la France-Afrique, qui ont fait énormément d'investigations sur ces sujets-là. Il y a également, toujours au même endroit, de 20h30 à 22h30, une table ronde sur les dynamiques transfrontalières et les perspectives de développement. Et les rencontres se poursuivront jeudi, vendredi, samedi. Alors, je ne connais pas tout le programme, mais il y a également, donc jeudi, toujours à l'IGA, de midi à 14h, jeudi, une rencontre sur les frontières de l'ancien Bantoustan. Penser les permanences et les ruptures coloniales qui lient l'Afrique et l'Occident. Voilà, je vous laisse regarder le programme sur le site de l'association Modus Operandi. Et je ne sais pas trop d'autres endroits pour trouver le programme.
Peut-être sur le CICP.
Le CIIP, le Centre Interpeuple. Isérois Interpeuple, je ne sais plus. Voilà, ce sera tout.
Merci Morgane. Est-ce que Zora, tu avais des actualités ou aussi sur le voyage olympique pour l'agenda de la semaine?
Je crois que la semaine passée, on avait annoncé donc, la fête de quartier qui aura lieu le 11 juin. Et juste pour finir de donner quelques informations, c'est que le 11, il y aura beaucoup de choses. Il y aura aussi l'USVO, je crois, qui va intervenir, non? Non? Est-ce que tu fais pour le 11 juin? J'ai dit avril, oui. Non, parce que je suis toujours en retard, moi. Donc, il y aura beaucoup de tables, beaucoup d'animations pour les gamins. Donc, je vous invite tous et les auditeurs à venir nous rejoindre le 11 juin. Voilà. Dès le matin, malgré que ça soit le ramadan. Mais bon, il y aura quand même, on a maintenu cette fête.
Voilà. Il y aura une brocante aussi, non?
Il y aura une brocante dès le matin à 7h. Voilà.
Eh bien... On commence tôt l'information à Radio Kaléidoscope.
On la rappelle tout le temps, on la rappelle voilà, aussi.
Si on le rappelle d'ici toutes les semaines, jusqu'en juin, oui. J'espère qu'il y aura du monde. Bon. Eh bien, Benjamin, tu avais quelque chose à dire sur la rencontre Pour Comprendre de vendredi dernier.
Oui, donc vendredi avait lieu la 4e rencontre Pour Comprendre. Alors, les rencontres Pour Comprendre, c'est des rencontres, des réunions publiques, en fait, qui sont nées à la Villeneuve au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, donc en janvier 2015, qui sont nées de la réunion de plusieurs associations qui se sont dit qu'il y avait besoin d'un espace de parole, en fait, dans le quartier, d'un espace pour se rencontrer, pour discuter ensemble. Et donc des rencontres, débats ont été organisés au cours de l'année 2015 et ça se poursuit en 2016. Donc la première avait pour thème les discriminations et il y avait eu la venue de Abdelaziz Chambi et de Michel Kokoreff sur la notion pour discuter des discriminations, notamment dans les quartiers populaires, en particulier dans les quartiers populaires. Donc cette rencontre avait eu lieu en mars 2015. La deuxième avait eu lieu en septembre 2015 sur l'aspect mémoire et histoire, notamment suite à la guerre d'Algérie. La troisième a eu lieu en novembre sur la notion d'enfermement dans les quartiers populaires avec la venue de Saïd Bouamama, le sociologue fondateur du Front uni des immigrations des quartiers populaires, FUIQP. Et donc pour cette quatrième rencontre Pour Comprendre, qui a eu lieu donc vendredi dernier, c'était le thème de la liberté d'expression qui a été retenu. Donc une centaine de personnes, en majorité habitantes de la Villeneuve, se sont réunies à la salle polyvalente des Baladins pour discuter, pour débattre de la notion de liberté d'expression. Et le sous-titre de cette rencontre, c'était « Peut-on rire de tout ?» On pense à la célèbre phrase de Pierre Desproges, « On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde ».
Oui. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, c'est ça. Mmh.
Et donc voilà, l'idée c'était de débattre autour de ce thème. Donc il y avait des petites tables, en fait, les habitants, les participants étaient réunis en table de 5-6 avec un modérateur, en fait, et étaient amenés à réfléchir, à débattre sur des témoignages de liberté d'expression, et notamment sur les attentats de Charlie Hebdo. Voilà, est-ce que Charlie Hebdo avait attenté à la liberté d'expression ou avait trop, poussé trop loin la liberté d'expression, enfin, voilà, les participants étaient amenés à discuter de ça. Et il y avait l'intervention de Hervé Hoth, qui est un formateur sur la non-violence, qui avait un peu un regard d'expert sur, cette, sur ces débats, qui a recueilli la parole des habitants, qui a essayé de, voilà, de l'organiser. Donc je pense que ça a été très bien accueilli par les habitants. Qui, voilà. Et donc le 21 mars, à je ne sais pas quelle heure, ça sera indiqué sur l'agenda du crieur de la Villeneuve, aura lieu une réunion pour l'organisation de la prochaine réunion pour comprendre, parce que l'idée c'était de faire 4 rencontres en fait sur un an. Donc voilà, les 4 rencontres ont été effectuées, et maintenant l'idée c'est les associations qui organisent ça réfléchissent à comment poursuivre le mouvement. Donc si vous voulez participer à cette organisation-là, ça sera le 21 mars à la Maison des Habitants des Baladins, et pour l'horaire, vous allez sur le site du Crieur de la Villeneuve, www.lecrieur.net.
Est-ce que tu veux pas nous raconter un peu ce qui s'est dit ce soir-là ?
J'ai pas été tout le temps là, donc il faut que je débriefe avant.
D'accord, ok.
Peut-être pour la semaine prochaine, alors. Et ben, je vous propose de faire une petite pause musicale. Alors, avec Kassem Wapalek, qui passe, j'en profite, qui passe à Eve ce soir à 20h30, dans le cadre du Festival de la Mixture. C'est 12€ sur place et il y aura Kassem Wapalek, Sidi Wacho et Les Artivistes. Les Artivistes, c'est un groupe de Grenoble. Les Sidi Wacho, on va écouter tout à l'heure. C'est notamment des anciens du MAP avec un peu plus une version un petit peu plus, comment dire, latine, latino. Pour l'instant, c'est Kassem Wapalek avec Déchiffrer des lettres, extrait du Free Tape numéro 1, donc de 2009. Donc pour info, Kassem Wapalek, c'est un rappeur de Lyon qui fait pas mal de jeux de mots vraiment intéressants. Et justement, ce titre-là, il est vraiment représentatif de ce qu'il fait. Et donc on écoute Kassem Wapalek, Déchiffrer des lettres.
Ça fait un, dans ce texte, il y a des chiffres et des lettres, et chacun d'eux est né pour ceux qui rêvent de déchiffrer des lettres, mais en reçoivent peu. Tu peux prendre ce texte à la lettre, un homme averti en vaut deux. Deux jeunes, on va dire A et B, t'es joue les rabes et cela joue BCBG, les deux s'embêtaient dans un parc, B roule un pète à des barques, ils voulaient des OCP, mais B n'en avait pas, alors A a des OCP, disons ça bien, c'est assez bas, B finira paralysé à vie et A ne réalisera qu'après coup qu'il a les flics au cul, quel triste parcours, on voit la haine partout et ceux qu'on aime partir, on voit la une pour toi, aucune rencontre ne rend compte, tu t'en rends compte et pourtant tu ne parles pas pour autant. La haine, y a ceux qui ont perdu la tête et qui la prônent. Mais la tête, moi je veux être de ceux qui se la prennent pour que ça sonne pro entre son neurone et qu'ils comprennent qu'un homme ne vaut que par ses neurones. Hein? Dans ce texte, il y a des chiffres et des lettres et chacun d'eux est né pour ceux qui rêvent de déchiffrer des lettres, mais en reçoivent peu. Tu peux prendre ce texte à la lettre, un homme averti en vaut deux, de multiplier par zéro et vous aurez plus à dépenser vos euros pour faire des heureux. Ne fais pas désirer, c'est deux fois rien ou plutôt c'est du double zéro. C'est rare comme de croire que le plus beau reste à voir. Ça reste à voir. On se tape, on tease, mais reste ouvert à cette hypothèse, c'est des bêtises. Même si l'espoir s'estompe et t'use, ou si t'épouses la vie et que cette pute te trompe et t'épuise, il faut que les types stupides taisent. Au lieu de dire si tu peux 12 et 12, et aussi vrai qu'un et 12 font 13, tu verrais que le droit chemin c'est 13 et 3. En fait, tu rajoutes 7 et 3, ça fait 7, 13 et 3. Égale 23 moins 1, 22, v'là les decks, et tu bouges en 2, 4, 6, attends, 2 et 4, 6 et 6, 12, car tu tapes des coups de 12, H24, et au moindre coup de blues, tu sors ton H24, ou si tu veux 12 et 12, mais la dernière fois que t'as 12 et cousin, c'était moins 2. Et 24 moins 2 égale 22, car jamais 203. Revlace ces têtes de nœuds de deck et tu redé 42, 4, 6. Mais 7 fois, t'es plein de 8, 6 dans le foie. Donc tu finis dans le fond du fourgon à 5, 7, c'est fini. Et dans le fond, tu fourguais, mais tu sens, hein, tu sais que c'est demi-sable dans ton 500. Hein, c'est 4, 5 ans, plus le temps qu'ils enquêtent, c'est con. En tout cas, tu sais quoi, fini les 400 coups. Tu repars comme en 40, tu te mets en 20 sur ton 31 le jour J, mais le juge lui fera jamais 50-50. Je récapitule là, passe à Tababé qui tombe dans le coma, coma qui tombe, mais pour 5 ans au moins, et ça fait 1. Dans ce texte, il y a des chiffres et des lettres, et chacun d'eux
Et né pour ceux qui rêvent de déchiffrer des lettres, mais en reçoivent peu. Tu peux prendre ce texte à la lettre, un homme averti en vaut deux, de multiplier par zéro, et vous aurez plus à dépenser vos euros. Pour faire des heureux, ne faites pas désirer, c'est deux fois rien ou plutôt, c'est du double zéro. C'est rare comme de croire que le plus beau reste à voir. Ça, ça reste à voir. Le plus beau reste à voir, ça, ça reste à voir. D'abord trace ta voix. Le plus beau reste à voir, ça, ça reste à voir. D'abord reste en vie.
Et c'était Kassem Wapalek avec Déchiffrer des lettres. Et je répète donc ce soir à 20h30 à Ève, donc c'est sur le campus de Saint-Martin-d'Hères. C'est le café associatif du campus, Dixit Benjamin. Et c'est 12 euros et je vais en reparler juste après, puisque c'est la deuxième chanson de l'émission. Ce sera aussi Silly Watcho qui va jouer ce soir aussi. Voilà. Morgane.
Oui.
Tu avais un sujet.
Tout à fait. Alors, je voulais vous reparler, parce que la semaine dernière, j'avais déjà abordé le sujet, l'Assemblée des mal-logés et des sans-logements qui se réunit à un rythme hebdomadaire en ce moment. En fait, on parle là de la fin de la trêve hivernale. La trêve hivernale, c'est une période qui dure habituellement à quelques jours près de fin octobre à fin mars chaque année et qui est une période durant laquelle on ne peut pas mettre les personnes à la rue. Donc, par exemple, les personnes qui n'arrivent pas à payer leur loyer, les personnes qui squattent des lieux. Après, il y a toujours des règles et des contre-règles. Donc, juridiquement, on peut quand même.
Mais disons, pour les locataires, ne peuvent pas se faire expulser.
Voilà, pour les locataires. Et puis, c'est la période aussi où les associations qui gèrent l'hébergement des personnes à la rue, des personnes. Voilà. En fait, c'est une période où on met en place ce qu'on appelle des dispositifs hivernales. Et donc, où souvent, il y a des centres qui sont ouverts pour les personnes qui n'ont pas de logement. Et donc, à la fin de la trêve hivernale, ces lieux qui ont été ouverts, notamment, là, bon, on a le cas de Bungalow à Pont-de-Clé. Il y a un centre d'hébergement. Bon, il y a plusieurs lieux. Et ils vont être fermés, donc, à la fin de cette trêve hivernale. Sauf que dans les lois, il y a une loi qui protège en fait les personnes qui sont dans ces hébergements-là et qui stipule qu'on doit assurer que les associations qui prennent en charge les personnes doivent assurer une continuité, c'est-à-dire proposer quelque chose qui soit plus adapté aux personnes, mais n'ont pas le droit de les remettre à la rue en fait. Donc voilà, il y a tout un tas de personnes qui s'organisent actuellement pour faire jouer ce qu'on appelle les référés au juge de paix, je crois, quelque chose. Voilà, pour protéger les personnes et pouvoir faire des recours en justice dans le cas de remise à la rue des personnes hébergées. Et voilà. Et donc, il y a ce mouvement-là qui, cette année, s'appelle l'Assemblée des mal-logés et des sans-logements, qui s'organise. C'est un mouvement qui, en fait, s'organise depuis plusieurs années, chaque année, avec cette fin de trêve hivernale qui est toujours un moment où il y a beaucoup d'actions, beaucoup de personnes qui se retrouvent de nouveau à la rue, des familles, des enfants. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant dans ce mouvement-là, c'est qu'au fur et à mesure des années, on a vu que les personnes qui étaient concernées par ces remises à la rue, par ces situations de mal logement, de risque, enfin voilà, de très grande précarité, aujourd'hui se mobilisent énormément avec des militants. se sentent concernées par aussi les situations diverses que peuvent rencontrer d'autres personnes en grande précarité, parce que donc, tout le monde est dans des cas voilà, assez variés. Et donc, il y a une structure qui s'est recréée, qui existait auparavant sur Grenoble et qui s'appelle le DAL, le droit au logement. Donc, c'est une section grenobloise parce qu'il y a plusieurs sections et il y a une coordination nationale du DAL qui organise justement ces mouvements, qui fait des dossiers avec les personnes pour débriefer leur situation, savoir comment elles peuvent se mobiliser à plusieurs ou sur des cas concrets. Dans ce cadre des assemblées des mal logés et des sans logement, on a obtenu par une mobilisation le lundi, alors je ne sais plus, c'était le 24 février je crois, un rendez-vous à la mairie le mercredi 9 mars. Donc c'était journée de mobilisation nationale contre la loi du travail. Donc il y avait quand même énormément de monde en manifestation ce jour-là. Et donc suite à la manifestation, à 15h30, il y avait un rendez-vous devant la mairie en soutien aux personnes qui avaient demandé ce rendez-vous. Donc le rendez-vous, il était collectif. On était, à la base, on voulait être 50 à être reçus en même temps. On a obtenu d'être 30 pour que les personnes concernées par différents types de situations, représentant en fait des types de situations, puissent témoigner, donc pas à titre personnel, mais dans le cadre d'une mobilisation collective devant les élus en présence, et donc donner un caractère plus concret aussi aux revendications, à la mise en lumière de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur les questions de logement, de précarité dans la ville, etc. À ce rendez-vous-là, était présent Monsieur Fristeau, élu à l'urbanisme de la mairie de Grenoble, Monsieur Denoyel, qui est, alors je veux pas te dire de bêtises.
CCAS.
Oui, alors il est au CCAS, il est, je sais pas s'il est directeur ou président.
Non. Il est président du CCAS, mais président, oui. Enfin normalement c'est Éric Piolle qui est président, il est président par délégation d'accord. En fait. Mais okay. C'est l'élu à la santé, oui. À la direction sociale.
Voilà. Et donc, ils étaient là. Et Éric Piolle devait être présent également. Sauf que pendant la rencontre, donc au début, il n'était pas là. On a commencé les échanges, prise de parole, voilà, répartition. On a posé un certain nombre de questions et de revendications qui étaient posées collectivement. Donc là, bon, pour vous les faire, il y en avait quatre. Moratoire sur les expulsions, c'est-à-dire pas d'expulsion tant qu'il n'y a pas de proposition au préalable de relogement adapté aux personnes. Il y avait baisse des loyers et des charges sur le logement social à Grenoble. En tout cas, sur les structures où la mairie a un pouvoir en fait, de décision. Il y avait réquisition de bâtiments publics, ouverture de bâtiments publics pour les personnes à la rue. Et la quatrième, la mise en place d'une plateforme sur la question du logement avec tous les acteurs responsables et les personnes concernées. Donc la métro, la ville, les bailleurs sociaux, l'État, etc. Donc voilà, donc ça c'était les quatre revendications. Et Éric Piolle n'est pas venu et il y a une des personnes, alors je ne sais pas quel était son rôle, est venu nous dire qu'il avait eu un empêchement de dernière minute et qu'il ne viendrait pas. Donc la tension est un peu montée. Parce que quand même, le rendez-vous était pris. C'était prévu qu'il reste une heure avec nous et qu'on puisse lui parler personnellement. Et finalement, grâce un peu à la pression qui a été mise dans le fait qu'on a dit qu'on ne partirait pas tant qu'on ne l'aurait pas vu, il est finalement venu. Ils se sont engagés sur rien de ce qu'on avait posé comme revendication. Et ils ont donné un certain nombre de rendez-vous individuels dans la semaine suivante. Donc là, samedi dernier, nous nous sommes retrouvés donc l'Assemblée des mal logés pour faire le point sur ces rendez-vous-là. Et il s'avère que les propositions soit ne sont pas adaptées aux demandes qui avaient été faites, Soit il y a aussi une personne qui a qui s'est vue poser un lapin. Donc il avait rendez-vous et puis personne n'est venu le chercher à l'accueil de la mairie. Donc voilà, donc c'est un bilan assez les personnes en tout cas qui étaient à l'assemblée, ce qui ressortait pas mal, c'était un manque de confiance, beaucoup de mépris de la part de la mairie de vis-à-vis des personnes, voilà. Ce que je peux en dire.
Excuse-moi, mais quand tu tout à l'heure tu disais que il y avait des rendez-vous de prix, mais avec qui? Qui devait recevoir ces personnes?
Alors, c'était des personnes de la mairie. Je crois que ça dépendait des rendez-vous. Ce n'était pas toujours les mêmes personnes qui recevaient. Mais alors là, vraiment, je ne peux pas te répondre, Zora, exactement sur les rendez-vous qui recevaient.
Moi, j'ai un rendez-vous à vous donner. C'est le 24 mars à 20h. Et on fait une assemblée des ateliers populaires d'urbanisme et on aura la vice-présidente à l'habitat et au logement de la métropole de Grenoble.
Qui est une conseillère de la mairie de Grenoble.
Voilà, et donc ce sera vraiment l'occasion de parler habitat, logement social, expulsion, voilà. Donc je vous invite le 24 mars, ce sera à la salle 150, 97 Galerie de l'Arlequin, de 20h à 22h. Voilà. Et j'en profite aussi, on va changer de sujet, on va parler de ce qui se passe à côté, donc de l'université, et notamment d'un groupe d'étudiants qui est parti à la jungle de Calais et parti faire une immersion, en fait, une enquête sur ce qui se passe à Calais entre la jungle, les migrants et puis aussi les habitants de Calais, comment eux, ils vivent ça. Et ils ont aussi fait une expo la semaine dernière. Mardi, c'était l'ouverture de l'exposition donc, qui reste à l'Institut de géographie alpine. Donc c'est 14 avenue Marie-Renoir, si ça vous intéresse. Ça restera toute la semaine. Et voilà, ils ont pris des photos et ils ont notamment fait un reportage audio. Et on va écouter un extrait là sur ce qu'ils ont vécu là-bas.
Des centaines de clandestins, en plein jour, en pleine rue, dans le centre de la ville. Les migrants font ici depuis longtemps partie du décor, mais leur présence massive depuis le début de l'année fait désormais de Calais une ville à bout de nerfs, où le désespoir des candidats à l'exil, prêts à tout pour gagner l'Angleterre, se heurte de plus en plus à l'exaspération des rivaux.
Et vous, c'est pourquoi vous faites ça?
En fait, on est en géographie, et on fait un travail sur la ville de Calais.
Vous êtes ici au lycée Calais?
Ah non. Vous êtes de Grenoble. De Grenoble? Ouais. D'abord, vous êtes pas embêté, tout ça? Non, il y a du jeu quand même.
D'accord. Et ils ont, quand ils l'ont mis les empreintes en Angleterre, ils ont compris qu'il venait de Vienne. Et du coup, il est resté 2 mois en prison. Et après, il attendait, ils l'ont retourné à Vienne. Et du coup, il n'y a plus rien. Alors, il est revenu ici. Parce qu'à Vienne, ils ne leur donnent pas de papier. Ils les aident et tout. Et ils restent quand même des réfugiés. Mais ils ne leur donnent pas de papier. Alors qu'en Angleterre, ils leur donnent des papiers. Tu vois, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas mettre les empreintes,
bien sûr. Voilà. C'est ça, j'ai entendu parler de ça hier. C'est ça le problème des empreintes. Que une fois ils sont enregistrés dans un lieu, c'est comme ça, n'importe combien de fois ils le savent, ils vont toujours les renvoyer
dans le pays où
ils
étaient. Il a mis ses empreintes en Allemagne. Donc il a peur d'aller en Angleterre parce qu'il était déjà enregistré en Allemagne. Ouais. Et bien ça c'est ce qui les aurait fait. En fait, en Allemagne, ils disent qu'ils étaient bien traités, ils étaient traités comme des rois et tout, mais ils avaient quand même peur de la demande des empreintes. Donc est-ce que je mentionne peur
ou
pas?
Parce que
ils sont aidés. بس في مثل خوف يعني خوف من الموت وخوف من الخطر ولا نحط الخوف يعني مشاعر عن البصر. Ils disent que ils ont peur de rien, ils ont peur que de Dieu, tu vois. Ils croient en Dieu, mais sauf que quand ça concerne les empreintes, ça leur effraie parce que ça va détruire leur vie, leur but depuis qu'ils sont venus du Koweït jusqu'en Angleterre. Ben si tu prennes leur empreinte au milieu, c'est foutu. Donc tout ce voyage est parti pour rien. Tu vois, bien sûr, c'est ce qui leur fait peur.
Même s'ils arrivent en Angleterre,
ils vont retourner dans les pays où ils ont pris les enfants.
Ça veut dire que c'est une question de la politique européenne. C'est pas que la France, c'est l'Angleterre.
C'est ça.
En général, c'est incroyable.
C'est ça. Bad Allemagne, oui.
Ici, ils passent pas tellement par ici. Donc ce qui passe, c'est à New Wilson, qu'ils ont cassé tous les rétros. À New Wilson, les gens font la gueule. C'est vraiment d'ici à New Wilson. Petit Bourguin, Rue Molière,
Le Château-Briand.
Ouais, Rue Château-Briand, Rue Graveline. Parce que ici, c'est vrai que on n'est pas aussi anglais ici, pour s'en régaler. Mais c'est vrai que c'est pas bon pour les vaches parisiennes. Et les routiers sont les forts.
Mais même quand les chaînes anglaises.
Les anglais, j'avais pas mal de clients anglais. Et ben, il dit, c'est un concitoyen en Angleterre, le journal. Il m'a ramené pour savoir. N'allez pas à Calais. Mais je trouve que c'est trop les médias qui jouent à l'extérieur.
Et après, vous personnellement, comment? Vous avez quand même des endroits à Calais, des loisirs, etc. Enfin, là, vous êtes je sais pas.
Ou... Moi, quand je vais quelque part, que je suis en repos, c'est à Boulogne.
À Boulogne.
Ouais, je ne promets pas à Calais. Bah... Je ne promets pas dans Calais. Il y a trop de bazar, il y a trop de sécurité. Ouais. Je vais à Boulogne. Quand je suis en repos de l'Ardille, lundi, tout ça, je vais à Boulogne.
Ouais.
Je ne suis pas en Calais. Je fais la côte, tout ça, mais... Et je ne promets pas autoroute parce que souvent, c'est bloqué. Par plus ou moins des manifestations de tous les côtés.
Ouais.
C'est compliqué de vivre par ici.
Ça
hein.
Pourrait être bloqué, c'est bloqué.
C'est compliqué de vivre par ici. Ils ont ouvert un téléphone avant-hier. Un bon reportage, hein. Mmh. Un bon reportage, mais pour faire voir que Calais c'était pourri. Mmh. Ben, quand on voit ça, eh ben, on vient pas à Calais. Hein. Et le port en curé barbelé, on se foirait dans un camp de concentration.
Ouais, c'est.
Vous avez
vu? Ouais, on a vu. Ouais,
c'est triste, hein. Autour du. De la cité Europe, il y avait plein d'arbres d'une forêt, c'était immense. Ils ont tout rasé pour faire plastique. Et normalement, c'était reconnu d'utilité publique, c'était interdit de toucher à ça. Hein. Vous auriez la pensée. Et le problème, c'est que les migrants, ils foutent tout en l'air, ils cassent tout, ils font du bras, et on leur dit rien. On les laisse souffrir. Les gens ont interdit les manifestations, ok. Moi, je comprends pas qu'ils viennent faire la guerre par ici, qu'ils nous emmènent à tout casser, pour faire qu'ils ne défendent pas dans leur pays. Quand il y a eu la guerre 39-45, tous les Français se sont préparés à l'étranger.
Je suis pas pro-Bouchard, dans ma vie, la mère, mais par contre, voilà, aussi horrible soit sa décision d'avoir créé une langue comme ça, là, dans une grosse zone, je pense que s'il y avait eu encore des squats dans le centre-ville, on aurait eu depuis longtemps des coups de fusil, quoi. Quand tu vois les milices qui ont été mises en place avec des jets de grenades, des jets de côté de Molotov dans des maisons où il y a des familles, ça pouvait plus durer, c'était explosif, vraiment. Et après, donc, je te disais, voilà, mon avis par rapport à ça, les lois qu'a fait passer Bouchard, je t'en prends tout ça, moi je suis d'accord, je trouve que ça a bien apaisé quand même. Moi je suis pour l'apaisement, hein. je suis pas pour l'affrontement et qu'on finisse à monter les uns contre les autres. Les mesures qu'a prises Mme Bouchard, par exemple, c'est tu vois, les squats peuvent être libérés, t'as plus, genre, t'es au bout de 48 heures, t'es chez toi parce que t'as ouvert un compteur pour ça. Toi.
Ouais.
Elle fait en sorte que ça c'est fini et que du coup, bah, on peut déloger tout de suite avec les CRS, les squatteurs. Il y a des échos comme quoi il y a des viols, tout ça dans la zone de la jungle, il y a des femmes qui sont complètement abusées, ça on l'entend, mais genre, les enfants, tout ça, on n'en voit pas ici, il n'y a que des hommes. Des hommes plutôt de nuire agressif, quoi. Par exemple, hier, moi j'habite à côté, quoi, j'habite à une maison, quoi, donc c'était limite s'il n'y avait pas des règlements de compte sur votre arbre.
D'accord.
Et ça, c'est frais, quoi.
Après, non, on dit des belles choses, je suis désolé, mais moi, j'ai abandonné ma femme, mes enfants, voilà, je serai resté.
Ouais,
je suis désolé, il y a 90% d'hommes valides entre 18 et 30 ans. C'est ce qu'on reproche. Moi, il y aura un gosse, je serai le premier à l'adopter. Mais voilà, ouais, vous avez fait. Mais non, pas des adultes qui sont, voilà, qui viennent ici pour foutre la merde. Non, désolé. Ça, c'est. Non.
C'est que c'est les plus costauds aussi.
Croyez ?
Je sais pas. Mais
non, ceux qui n'ont pas de couilles, qui ont abandonné tout dans leur pays, qui ont laissé leur famille, qui ont laissé leur
femme. Je vais
faire
mes cas de côté.
Moi, je vais voir de ce côté-là. Maintenant,
peut-être
bon,
aussi,
chacun
son
opinion.
Peut-être aussi. Ouais.
Oui, je suis désolé, quoi. Donc,
d'accord.
Il y a 5-6% de femmes et d'enfants. C'est quoi 5-6%? Ceux qui ont emmené leur femme et leurs enfants, eux ont du courage. Ils ont essayé de sauver leur famille. Eux, d'accord. Moi, je leur donne un logement et je serai prêt à leur donner tout ce que je. Mais pas les autres, non. Hein, quand ils se baladent à 50 sur la route, là, qui sont pas menaçants, mais qui vous toisent, qui vous regardent de travers, et nous, on est obligé maintenant de baisser la tête, ou même pas les regarder, parce que voilà, il faut arrêter, quoi, voilà. Ces gens-là, non, on n'a rien à faire ici. Rien à faire ici.
Ils sont au courant, les élus, tout ça, sont au courant, mais ils sont impuissants, ils font rien. Donc, il y a le trafic s'installe, ça fait des va-et-vient, les mecs qui viennent pour 15 jours, et puis il y a du poids de mesure. Et après, le problème, c'est que les gens font l'amalgame, justement, ils rejouent ça, c'est une migrant, c'est une migrant. Ouais. Il y a des gens qui te disent, voilà, s'il n'y avait pas de migrant, il n'y aurait pas de passeport, il n'y aurait pas de ceci. Du coup, ça va vite, et ces gens, c'est important.
Voilà, c'était un extrait donc du reportage qui a été réalisé par les étudiants, et notamment Basile Griseille, qui est donc c'est lui qui a fait le montage. Et je rappelle que c'est des étudiants de première année de master de l'Institut de géographie alpine, donc qui se situe au quartier Vigny-Musset, juste à côté, dont on recevra le directeur la semaine prochaine.
Je voulais juste rajouter une information par rapport aux DAL. Si vous connaissez des personnes qui sont en situation de mal-logement, en situation d'expulsion prochaine, etc., vous pouvez donc les orienter vers les permanences du DAL qui se tiennent tous les mardis de 17h à 19h à la MJC de l'Abbaye. Voilà, et donc ils seront reçus, on pourra discuter de leur situation, voir ce qui est possible de faire.
Et moi je voulais juste ajouter aussi que c'était la première partie du reportage et on écoutera la deuxième partie la semaine prochaine. Et là on va pouvoir faire une petite pause musicale avec comme promis Silly Wacho de l'album Libre qui est sorti en 2016, donc c'est tout récent. Vous allez reconnaître sûrement donc, le chanteur du ministère des Affaires Populaires ou même de Zone d'Expression Populaire, qui était Seydou. Et il y a aussi l'accordéoniste du ministère des Affaires Populaires, donc de MAP, avec en plus de ça un chanteur de Santiago, donc au Chili. Petite pensée pour Marie-France en même temps. Et voilà, donc ils ne se définissent pas comme de la cumbia, pas comme du rap, pas comme de la musique des Balkans, mais de l'expression populaire made in Lille et Santiago. On écoute Sidi Wacho de l'album Libre.
Amène-moi autre chose que la fadeur ambiante, que la tiédeur récurrente et la mollesse répugnante. Donne-moi autre chose que les versions officielles. Abrace comme une gringo, vas-y change ton logiciel. Mes oreilles, ma bouche, mes yeux, mon âme, pour mon cœur, ma peau, mon sang, mon crâne. Abreuve-moi de saveur, de senteur, de couleur. Moi, j'aime les rêveurs, les créateurs, les bordéliers. De leur lutte, leur histoire, rébellion contre leur maître. Parle-moi de Lumumba, de Sankara, de Malcolm. Parle-moi de Steve Biko, de Guevara et de Fanon. Parle-moi avec passion, rage, réveil, les cicatrices. Césaire nous dit que la colère est créatrice. Alors vas-y balance, mets les tripes sur la table. Surtout n'aie pas la trouille, si bois n'a pète un câble. On nous impose des normes, je refuse de suivre comme une bourrique. Moi je veux des mots qui piquent et de la scie qui revendique. Casser la baraque, plastiquer la
la boutique, a pété le protocole, décolonisé la République.
Voilà, c'est des Silly Watt Show avec Con Sabor et je rappelle donc que ce soir, il passe en concert à Ève sur le campus de Saint-Martin-d'Hères et ce sera à 20h30. Et voilà, maintenant ça va être au tour de l'interview avec notre invité, donc Osin Boudissa, qui est président de l'USVO.
Bien, bonjour et merci pour l'invitation.
Ben, merci d'être venu.
Alors l'USVO, c'est... L'unité de...
Unité sportive du village olympique.
C'est ça.
Voilà, donc c'est le club de foot phare du quartier village olympique. Je suis au club depuis 1998 en tant qu'éducateur jusqu'en 2003, où là j'ai pris la présidence, parce que le bureau avait démissionné et... Et le club se retrouvait sans président et allait mourir, hein, en quelque sorte. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, aidé par un parent du quartier qui était entraîneur des débutants à l'époque, c'est M. Ben Ali Abdellah. Donc à nous deux, plus deux, trois autres adultes, un qui s'appelle Cordon Pedro, qui est parti maintenant sur Montpellier, plus un autre Mohamed Hamidi, à quatre, on a repris le club. Donc... ces quatre personnes, ben, je suis le seul qui reste parce que Abdellah a fait une petite pause et les deux autres se sont ont eu d'autres parcours.
D'accord. Et alors l'histoire, tu disais tout à l'heure que c'est un club qui est assez vieux finalement, qui date de 76.
Voilà, cette année on va fêter nos 40 ans avec on espère faire un grand tournoi, faire un tournoi international en catégorie U13. Pour les vacances d'octobre 2016. Voilà, c'est en préparation. Après, on ne sait pas si ça va aboutir, mais pour l'instant, on prépare ce grand tournoi international.
Ok. Donc, tu parlais d'initiative de vouloir décloisonner le village olympique via cette association.
Bien, depuis que je suis président, c'était l'objectif, en fait. C'était l'encadrement de nos jeunes au niveau du village olympique. C'était décloisonner toutes les structures, notamment avec la MJC, la Maison de l'Enfance, et qui ne comprenaient pas et qui mon projet. Mais en fait, maintenant, ça s'est fait et ça se fait naturellement. En fait, c'était que tous les partenaires, que ce soit professionnels ou bénévoles ou associatifs, qu'on encadre tous nos jeunes du village olympique. Voilà, et qu'ils soient connus par tout le monde, par tous les...
Mais quand tu dis décloisonner, c'est comment c'est vous faites des réunions en commun, enfin...
Voilà, entre autres, moi je fais partie et quand je peux, je vais au CA de la MJC Prémol. Ensuite, on est en contact tous les mercredis avec la Maison de l'Enfance Prémol. Maintenant, avec le club de yoga qui est reboosté, on est en partenariat. Donc, ce qui veut dire en quelque sorte de créer une entité village olympique, avec chacun sa propre discipline, bien sûr.
Justement, tu parles de yoga. Vous, à l'USVO, vous faites essentiellement que du foot et yoga, eux, ils font du futsal et ils sont pas mal inspirés de l'éducation populaire. Et vous, vous placez comment par rapport à ça?
Bon, mais maintenant que yoga a le temps et les bénévoles pour faire ça, on va dire qu'on va être complémentaire. Nous, on n'a vraiment pas le temps. Cette année, on se retrouve avec le nouveau stade à 300 licenciés, moins 70 qui sont seniors, donc qui sont censés se gérer tout seuls. Tout le reste, c'est de 6 ans jusqu'à U15. Donc, ça demande énormément de travail en termes de...
230 jeunes dans le club.
Voilà, 230 jeunes dans le club. Donc, non, on est vraiment focalisé sur le foot, au niveau des entraînements et des déplacements, au niveau des matchs.
J'ai cru comprendre que, de toute façon, les usagers de l'USVO, on les retrouve pas mal à Joga, finalement.
Les usagers de l'USVO, on les retrouve à Joga, on les retrouve à la MJC, on les retrouve à la Maison de l'Enfance, ce qui fait que, bon, peut-être que cette année, avec le nouveau stade, on entend un peu plus parler du village olympique, mais c'est quelque chose qui a toujours été, on a toujours travaillé avec les animateurs de la MJC Prémol, et on a toujours travaillé, donc... Voilà, c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais c'est quelque chose qui maintenant est dévoilé au grand jour.
Et c'est un club de quartier, mais est-ce que vous accueillez aussi des jeunes qui sont des quartiers un peu plus autres que le village olympique ?
On accueille tout le monde, hein. On est un club de foot, hein.
La limite géographique.
Voilà, on n'a pas de limite géographique.
Mais c'est surtout des jeunes du VO ou...
Essentiellement. Village olympique, et puis le village olympique s'est agrandi maintenant. Il y a village olympique Vinimusé, donc ce qui fait qu'il y a, il y a pas mal de licenciés. Qui viennent de ces deux quartiers.
Et du coup, il y a un autre club de foot pour jeunes, il y a celui de la Villeneuve, la JAV, qui n'est pas très loin en fait. Les deux clubs sont très proches géographiquement en fait.
Voilà, et après, le travail que fait la JAV, c'est avec les jeunes qui sont à Villeneuve. Et après, comme depuis longtemps, il y en a beaucoup qui, en fin de saison, vont jouer à Villeneuve. Et de Villeneuve qui viennent au village olympique. Donc,
le mercato d'été.
Comment ?
Le mercato d'été fonctionne bien entre les deux.
Le mercato, oui, tout dépend ce que. Tout dépend si les copains vont jouer à Villeneuve. Ils vont tous à Villeneuve. S'ils viennent au village, ils viennent au village. Donc non, pour ça, il n'y a pas de... En catégorie jeune, il n'y a pas de... Il n'y a pas de frontières.
Bah justement, tout à l'heure, tu parlais des valeurs du football qui se transmettent via l'association, la convivialité.
C'est ce qu'on essaye de faire. C'est ce qu'on essaye de faire à travers le club du village olympique. Lorsqu'on vient et qu'on adhère à un sport... collectif, on essaye de respecter toutes les règles. Donc voilà, ça. Le collectif, bon, mais maintenant, ce qui existe ailleurs, on l'a aussi, c'est les individualités qui se dégagent de tout sport collectif. Parfois, c'est comme ça.
Et pas pour les filles, alors, comment ça se passe ?
Les filles... Dans le district de l'Isère, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, jusqu'à la catégorie 13 ans, voire 15 ans, peuvent jouer avec les garçons. Et après, elles sont orientées dans les clubs qui sont spécifiés avec des équipes féminines. Et il y a Métropole Clé, il y a d'autres clubs qui ont des équipes féminines. Et notamment Joga qui a ouvert une section féminine futsal. Donc voilà.
Et donc, vous avez beaucoup de filles, vous, à l'USVO ?
Oh, on en a pas mal, on en a deux. Par rapport aux autres années où on en avait pas.
Et comment ça se passe, le rapport entre les garçons et les filles, justement, au sein des équipes ?
Ça se passe très bien, parce qu'en fait, on a la chance aussi que la ville de Grenoble a ouvert la première école féminine de foot. Donc, ce qui fait que les filles s'entraînent le mercredi, les filles de Grenoble s'entraînent, que ce soit du quartier de Tesserre ou de l'abbaye de Mistral, sont récupérées le mercredi, elles s'entraînent ensemble et le samedi, elles retournent dans leur club respectif pour jouer les championnats. Mais sinon, les entraînements sont pris en charge par la mairie.
Donc, ça veut dire que les filles ne s'entraînent pas avec leur équipe du samedi, quoi, avec leur vraie équipe finalement ?
Non. 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 Mais elles jouent avec. Leur vraie équipe et leur vrai club le samedi.
Et malgré ça, il y a quand même une cohésion d'équipe et réussissent à rentrer dans...
Oui, oui, oui. Non, mais elles apportent même des leçons aux garçons.
Par exemple ?
Au niveau de la discipline, au niveau des passes, au niveau de... Non, non. On s'en inspire. Ils s'en inspirent.
J'ai entendu dire tout à l'heure qu'il arrivait que vous ayez des joueurs qui soient repérés, finalement, par des équipes plus grandes.
Ça nous arrive, mais bon, après c'est ça fait partie du rêve. C'est ce qu'on aimerait tous, c'est qu'un joueur de notre club puisse percer et aller jouer ailleurs. Mais généralement depuis de nombreuses années, lorsque nos jeunes étaient forts, vu le stade, quand on avait le stabilisé, il partait soit à Ebain, soit à Échirolles, soit au... J'espère que maintenant, avec le nouveau stade, on va pouvoir monter notre niveau. Et ce qui est le cas cette année. Ce qui est le cas cette année, où on rivalise avec... on essaye de rivaliser avec le GF 38, d'autant plus que samedi, on aura un match de coupe contre eux. Ensuite, au niveau jeunes, on a fini quatrième au niveau départemental. Il y avait la finale départementale la semaine dernière. Donc voilà. Donc
c'est une bonne équipe finalement que vous avez ici.
C'est le fruit d'un long travail, oui.
Mais là, tu parlais du nouveau terrain du synthétique, parce qu'en fait, le terrain vient d'être changé au stade du village olympique.
Ce qui a gonflé les effectifs.
Et est-ce que tu peux raconter un peu comment c'était un changement que vous réclamiez depuis de nombreuses années. Comment ça s'est passé en fait, ce changement?
Ben, ce changement, on l'a réclamé depuis de nombreuses années. Ça, on a vu notre voisin à côté, Club de la Villeneuve, qui a changé son stade, son vieux stade stabilisé avec un synthétique. Et en plus, qui a été renouvelé. Et nous, on avait encore notre terrain stabilisé. Le stade synthétique a été une promesse électorale qui a été tenue.
Et donc, c'est quoi l'intérêt pour les... Pour... Moi, je ne connais pas très bien le foot. Le synthétique, c'est parce que tous les matchs se jouent maintenant sur du synthétique.
Mais l'avantage, en fait, du synthétique, c'est qu'on peut jouer même s'il pleut, s'il fait trop chaud, ce qui n'était pas le cas avec le stabilisé. Ou lorsqu'il faisait trop froid, ben, il gelait. Et lorsqu'il pleuvait, c'était une vraie piscine. Donc, voilà, le synthétique apporte de meilleurs... de meilleures conditions de jeu et d'entraînement.
Et il y a moins d'accidents depuis l'invention du synthétique?
Bah pour l'instant, on a passé juste la période hivernale, on verra cet été.
Affaire à suivre alors.
Ouais, affaire à suivre.
Je crois que les gamins pourront jouer en short et tomber sans se faire trop mal hein, par rapport à ce qui existe aujourd'hui.
Ouais, c'est ce que je disais, ouais. La plupart des autres synthétiques sur lesquels on a pu jouer... il y a dans les synthétiques des espèces de billes noires sur le fait, notamment celui de Tesser, où lorsqu'il faisait trop chaud, les petits se cramaient les pieds.
Ouais.
Et lorsqu'ils tombaient aussi. Donc on verra. On verra si c'est un synthétique dernière génération ou c'est un générique. On verra cet été.
Ouais, des fois, les génériques, c'est aussi efficace.
Ouais, mais on verra cet été.
À suivre.
Affaire à suivre.
Moi, j'avais une petite question. T'as dit que t'étais arrivé en 98, donc c'était finalement pendant la Coupe du Monde.
Après la Coupe du Monde.
Ouais. Juste après la Coupe du Monde, donc ça devait être un contexte particulier pour le foot.
Ben, l'effectif du village olympique était le même qu'aujourd'hui. On avait quatre équipes en catégorie, mais toutes les catégories ont changé, parce qu'avant on les appelait les Benjamins, cadets, maintenant c'est classé en U13, U15 et tout. Donc, on était dans le même effectif. Ils avaient besoin d'éducateurs. Donc, c'est là où j'ai postulé. J'ai passé mon diplôme d'entraîneur. Et voilà. Donc.
Mais comment s'est née cette vocation-là d'entraîner une équipe de...
Bah parce que moi-même, j'étais joueur. Suite à des problèmes qui sont propres aux footballeurs. Rupture des ligaments croisés. Il a fallu que je fasse une reconversion.
Et est-ce que vous avez quelques petites questions en plus?
Mais alors, comment ça se passe la gestion d'un club? Parce que là, donc, tu as 230 jeunes. Ça fait quand même un gros club de sport. Et vous avez combien d'entraîneurs? Comment vous répartissez en fait?
On a fait une demande pour avoir un emploi. Au sein du club, sinon c'est ingérable.
Parce que vous êtes tous bénévoles là au sein du club?
On est tous bénévoles. Donc il y a M. Absir Amar qui était en contrat unique d'insertion et à travers les aides CNDS et toutes les aides qu'ont pu apporter l'État, on l'a embauché cette année en CDI depuis décembre. Donc ce qui fait que ça va structurer et renforcer l'association.
Mmh. Et sinon, comment vous arrivez à fonctionner du point de vue financier, en fait, sur subvention, sur...
Nos subventions, elles viennent à 99% de la mairie. Mmh. C'est la mairie qui subventionne l'association. Après, on n'est pas sponsorisé par telle et telle grande entreprise, ce qu'on aimerait bien, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Après, cette année, la seule chose que, par rapport au nouveau stade, c'est la création de l'équipe senior. Et ça, c'est... pour ça, pour remercier et féliciter M. Faisal Rey, c'est un habitant du quartier là, qui a pris l'initiative de prendre en charge et de gérer l'équipe senior, chose que je ne pouvais pas faire. Mmh. C'est pour ça que depuis des années, il n'y avait pas d'équipe senior, parce que ça demande du travail en plus, et je pense qu'on passe assez de temps pour pouvoir s'occuper de seniors. Donc, M. Faisal Rey a créé la catégorie senior, aidé de Abou Dieng et surtout ne pas oublier Olivier Colli. Voilà, c'est les trois responsables de la catégorie senior.
Tu disais qu'il y avait combien d'éducateurs du coup pour les 200, les 300
On est à peu près une dizaine.
Ça fait du coup combien d'entraînements par semaine?
Deux entraînements par semaine, sauf pour les petites catégories où ils n'ont qu'un entraînement le mercredi, mais à partir de U10 suivants, ils ont deux entraînements par semaine.
D'accord. Et pour vous rejoindre, comment on fait? Pour vous joindre, allez vous voir jouer, est-ce qu'il y a un point d'information, un lieu?
On joue généralement tous les samedis au stade, et tous les samedis le terrain il est occupé parce que le championnat fait qu'une fois on est en déplacement suivant les catégories, une fois on joue à domicile, donc tous les samedis le stade il est occupé.
Et pour s'inscrire à l'USVO?
Moi, cette année, pour cette saison, c'est un petit peu trop tard, mais sinon le mieux c'est de venir s'inscrire fin juin pour commencer à jouer début septembre, sinon en septembre il y a des permanences.
Eh bien, merci en tout cas d'avoir
merci à vous d'avoir
répondu à l'invitation et pour cette interview. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. Donc, merci à tous les auditeurs, merci à l'équipe, à Pato, à la technique. Je vous rappelle qu'on a le Facebook, donc oraderu-rks97fm. Si vous voulez nous joindre, nous soumettre un sujet, on a aussi l'adresse mail oraderu@lecrieur.net. Et puis, on a les podcasts pour réécouter sur le site du Crieur, www.lecrieur.net. À la semaine prochaine!
À la semaine prochaine.
C'était Au ras des rues, l'émission qui, espérons-le, vous a fait prendre de la hauteur sur Radio Kaléidoscope 97 FM. À la prochaine. Yeah.